racing or watching.
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Leduo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Jean-Richard Dufour. Réalisation signée Assia Khalid. Ce soir, Anaël Pija et Yasmine Yossi se font face à notre affiche. Un focus sur la proposition Art Afrique, le nouvel atelier, à découvrir jusqu'au 28 août à la Fondation Louis Vuitton à Paris, avec trois expositions. Être là, Afrique du Sud, une scène contemporaine. Les initiés, un choix d'œuvres de la collection d'art contemporain africain de Jean Pigozzi et une sélection d'œuvres africaines de la collection de la Fondation Louis Vuitton. Vers 21h20, Xavier Martinet nous fera passer dans le petit salon pour parler de ce goût pour l'Afrique dans le monde de l'art. Et puis il y aura bien sûr encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des places de cinéma pour le film de Toutes mes forces de Chan Chenouga qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Donc dans le petit salon de cet embouteillage d'expositions d'art liées à l'Afrique. Aussi, nous entrons directement dans le vif du sujet avec l'exposition « Être là » consacrée à la scène sud-africaine contemporaine, dont les commissaires sont Suzanne Pagé et Angeline Scherf avec Ludovic Delalande et Claire Stebler. Cette exposition dont nous allons parler maintenant se situe, selon ses commissaires, dans le droit fil de celle qui avait été précédemment consacrée dans la Fondation Louis Vuitton à la scène contemporaine chinoise. Avec ce titre « Être là », l'exposition insiste à travers une sélection de 16 artistes sur la dimension économique et sociale de ces œuvres nées en Afrique du Sud, singulièrement après la fin de l'apartheid, porteur d'espoir pour une bonne part largement déçu pour cette génération née dans les années 80, écrit Suzanne Pagé et Angeline Scherf. Il s'agit de s'enraciner à nouveau en Afrique du Sud et d'assumer une responsabilité dans l'expression d'une nouvelle identité qui ferait trace dans l'histoire. Fin de citation. Ça, c'est le propos. Qu'en est-il de ce que l'on voit dans la fondation? Je vais commencer avec Anaël Pija.
Eh bien, peut-être premier petit point, quant à la programmation de la Fondation. Le sujet de l'Afrique du Sud est un vrai sujet et c'est une réponse très intéressante que de faire ces deux expositions à la mode, dont on a déjà parlé et dont on reparlera tout à l'heure, des expos sur des artistes venant d'Afrique. L'Afrique du Sud est de loin le pays leader du continent en matière de création contemporaine. On y trouve une vraie scène sophistiquée qui existe depuis longtemps, qui est née dans les années 60, qui a deux galeries d'envergure internationale, qui sont la galerie Stevenson et la galerie Goodman, qui a un musée national, qui a un grand musée d'art contemporain, le Zeitz Museum, qui va ouvrir cet automne au Cap, qui attire beaucoup d'artistes et qui a aussi des universités très actives. Donc déjà, le sujet de l'Afrique du Sud, c'est en soi un sujet passionnant et c'est en plus un moment très intéressant pour se pencher sur cette question, parce que l'Afrique du Sud est actuellement dans une situation extrêmement complexe dans laquelle on s'aperçoit que l'apartheid, la transition démocratique qui a suivi l'apartheid n'a pas été suivie d'effet dans les champs, dans le champ économique et dans le champ social. Et donc certains disent que le pays est au bord de, enfin que les émeutes, il y a eu des émeutes en 2015. Certains disent que cette période d'intranquillité, disons, est passée. D'autres disent que le pays est vraiment au bord de l'explosion. Alors qu'en est-il dans cette exposition ? En fait, je voudrais vous y faire rentrer, non pas par l'entrée, mais par le cœur de l'exposition, par le cœur battant de l'exposition. En gros, l'exposition est à peu près chronologique, présente des artistes de trois générations. La génération de Jane Alexander, David Goldblatt, la génération des quarantenaires, en gros, comme Zanele Muoli et Nicolas Lobo, et puis la génération des plus jeunes. On voit la première génération au début et puis on progresse. Mais il y a une exception. C'est une pièce de Sue Williamson. Sue Williamson est en fait née en Angleterre, arrivée en Afrique du Sud quand elle était enfant, en 1948. Elle a d'abord eu une vie d'activiste, de journaliste. Elle s'est battue contre l'apartheid avec beaucoup d'ardeur et elle est progressivement devenue artiste. Elle a toujours conservé une part d'écriture dans son travail, de livres, un site internet qui s'appelle Heartthrob. Sa vidéo est vraiment le cœur battant de l'exposition à mes yeux et est extrêmement bouleversante. On y voit deux jeunes gens, ça s'appelle d'abord « It's a pleasure to meet you », donc c'est un plaisir de vous rencontrer, c'est une joie de me rencontrer. On y voit sur deux écrans, sur des fonds extrêmement neutres, deux jeunes gens, un garçon et une fille, qui parlent d'une expérience qu'ils ont eue, qui a consisté à rencontrer les meurtriers de leurs pères respectifs pendant l'apartheid. Et ça a été une des suites de la commission Vérité et Réconciliation que de faire que les victimes, qu'il soit proposé aux victimes de rencontrer, aux familles des victimes plutôt, de rencontrer les assassins des membres de leur famille. La jeune fille, je ne dirais pas qu'elle est apaisée, mais en tout cas elle a décidé de pardonner. Et le jeune homme est plein de colère. On les voit l'un et l'autre de front, comme ça. Et je trouve qu'on voit vraiment dans cette exposition toute la complexité à la fois de l'âme humaine et de la situation de ce pays aujourd'hui. Sue Williamson dit que c'est une artiste qui a aussi une très grande générosité. Peut-être c'est pour ça que elle est dans cette partie de l'exposition. En dépit de son jeune âge, elle est extrêmement jeune.
En dépit de son grand âge, elle est extrêmement jeune.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Jeune.
Oui, pardon. Non, en dépit de son grand âge, elle est extrêmement. Elle est très ouverte à la jeune génération. Ce site internet qu'elle a fait fait partie de cette démarche comme ça d'ouverture et de générosité. Et elle parle en désignant cette jeune génération d'artistes sud-africains, d'artistes qui font des œuvres qui, en plus du fait d'être là, c'est le titre de l'exposition, on y reviendra, je pense aussi, des œuvres qui veulent assumer un objectif. Et je trouve que ça aussi dit beaucoup. Alors ensuite, maintenant, on peut revenir au début de l'exposition.
Avec Yasmine Youssi. Et sa fiche d'introduction.
C'est 75 fiches d'introduction.
Je suis perdue dans mes fiches aujourd'hui.
Allez, reprenez « Être là ».
Être là.
Introduction. Première fiche.
Je dirais que par rapport à cette exposition, effectivement, Suzanne Paget a réussi un exploit en réunissant ces trois générations et
en les tenant.
En tirant un même fil qui est celui de la lutte. Tout au long des trois générations. La première génération luttait contre l'apartheid. La deuxième génération a connu l'euphorie de la fin de l'apartheid. Et il fallait réécrire aussi sa propre histoire. Et la troisième génération lutte pour récupérer ce que la Constitution lui garantit. Et c'est ce qu'on voit dans ces trois générations de manière très très forte. L'apartheid a beau être aboli, il est omniprésent. Et effectivement, ce qui fait le point commun entre tous ces artistes et qu'on ne voit plus en Occident, pour beaucoup, c'est que ces artistes sont persuadés que leur œuvre, leur travail peut changer les choses et ça peut changer les choses, ça peut avoir un impact, c'est-à-dire qu'ils continuent à croire au pouvoir de l'art et au pouvoir de l'art sur les gens.
Heureusement, quelques artistes en Occident qui pense
quelques-uns,
quand même la même chose dans les différents arts, par ailleurs.
Absolument. Mais là, c'est très très fort. On a l'impression que c'est vraiment à l'échelle d'un pays, en tout cas. La vidéo de Sue Williamson dont parle Anaël est effectivement un moment très très fort. Je voudrais juste rajouter pour compléter Anaël que la jeune fille donc il y a une jeune fille et un garçon qu'on voit dans cette vidéo, il y en a une qui a décidé de pardonner parce que le bourreau de son père lui a donné absolument tous les détails de la mort de son père et s'est excusé pour tout le mal qu'il avait fait. Et lui a dit que son père serait certainement fier d'elle et s'en est expliqué. Et elle a décidé de pardonner. Le jeune garçon, lui, s'est retrouvé à 9 ans face au bourreau de son père qui lui a fait un doigt d'honneur et lui a tiré la... Enfin, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé.
De la commission, c'était qu'effectivement, il y avait un pardon pour celles et ceux qui venaient confesser leur crime. Il ne s'agissait pas, moi je l'ai vu à l'époque à la télé en Afrique du Sud, il ne s'agissait pas de s'excuser, il s'agissait simplement de venir dire ce qu'on avait fait. On avait donc un pardon à partir de là, pardon de la justice au contraire.
Voilà, mais celui-là, je crois, n'avait rien dit. Et il est ressorti libre en lui faisant un doigt d'honneur en sortant, alors que le bourreau du papa de la jeune fille, lui, est resté en prison en disant qu'il n'expirait jamais pour tout le mal qu'il a fait. Donc ça lui a permis de faire un travail de deuil. Et alors c'est marrant parce que vous avez choisi cette vidéo, je le comprends parfaitement Anaël. Pour moi c'est une photo de David Goldblatt. On a eu la chance Anaël et moi d'aller en Afrique du Sud et de rencontrer ces artistes-là et ça a été une chance extraordinaire. Et moi, la plus belle rencontre, c'est vrai que la rencontre avec Sue Williamson était superbe, mais la rencontre, moi, celle qui m'a le plus bouleversée, c'est celle avec David Goldblatt. Et David Goldblatt a fait une photo qui, pour moi, permet le basculement entre d'une génération à l'autre et de voir où, à quel moment on voit que tout d'un coup, ça ne va plus. Et qu'on est passé à autre chose. David Goldblatt, lui, a commencé. Donc, il est né en 1930, famille juive. Il est né en Afrique du Sud, d'une famille juive venant des pays baltes. Il a lutté toute sa vie contre l'apartheid à travers ses photos, en photographiant essentiellement des architectures locales, parce que les architectures disaient bien à ses yeux la ségrégation. Et puis, quand l'apartheid a été aboli, il s'est mis à faire de la couleur. L'espoir revenant, il a accepté une photo d'ailleurs qu'on voit dans cet ensemble qui lui est consacré. Et je voudrais souligner vraiment la justesse de l'accrochage de Suzanne Pagé pour toutes les expositions d'ailleurs qui sont présentées. Et donc il passe à la couleur. Il accepte de faire une chose qu'il n'a jamais faite, c'est de répondre à une commande et il photographie le nouveau Parlement avec Nelson Mandela qui est là. Et puis à partir de 2012, il repasse au noir et blanc. Parce qu'on, comme il le dit, il nous l'a dit très justement, c'est très difficile d'être en colère en couleur. Et il photographie, il commence à documenter à un moment la révolte des étudiants. La révolte des étudiants, moi c'est un épisode donc qui n'était pas arrivé jusqu'à moi ici et que la manière dont il l'a expliqué pour moi est capitale. Les étudiants ont commencé à se révolter dans les universités et à demander, et l'une des révoltes a abouti en fait à la, alors je crois qu'en français on dit la déposition d'une statue, à la statue de Cecil Rhodes, qui était en fait un anglais, un colon, qui a fait en sorte que les noirs soient expropriés pour qu'on puisse récupérer leurs terres, qui travaillait pour la De Beers, enfin qui a mis en place l'état qui allait aboutir à l'état d'apartheid. Et donc la jeunesse a demandé a vraiment lutté pour que sa statue à l'université du Cap tombe. Et lui, il a photographié ce moment où la statue tombe. Et tous les jeunes sont les mains levées. On croit que en fait ils sont parce qu'ils manifestent en levant les mains, mais en fait ils prennent une photo avec leur rêve. Mais à partir de là, cette révolte, on est passé de Rhodes must fall, donc on doit faire tomber cette statue, à Fees must fall, c'est-à-dire que le combat c'était que le début du combat. Et cette nouvelle génération, est-ce qu'on voit bien aussi dans l'exposition, c'est que cette nouvelle génération, elle a commencé à dire, mais attendez, on a la meilleure constitution du monde qu'on a eue en 94, mais en quoi est-elle appliquée? L'apartheid existe encore, puisque cette constitution, par exemple, garantit l'éducation pour tout le monde, mais l'éducation, quand vous n'avez pas les moyens de vous payer le logement et donc, quand vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas en bénéficier. Ce sont essentiellement les Noirs qui... Et donc, la révolte a grondé, elle s'est amplifiée et tout d'un coup on s'est mise à détruire des œuvres d'art qu'on attribuait à des Afrikaners qui étaient au sein de l'université. Un monsieur qui s'appelait Willie Bester, qu'ils ont pris pour un Afrikaner dont ils ont détruit la statue alors qu'il ne l'était pas. Et là tout d'un coup Vous entendez le discours de David Goldblatt, les livres qu'on a commencé à brûler, quand même, ça rappelle une période de sinistre mémoire. Et là, tout d'un coup, où est la démocratie? Où est la démocratie quand on commence à brûler? Et cette photo, elle symbolise ça. Elle symbolise cette fracture entre l'ancienne génération et la nouvelle, des luttes toujours, mais des luttes différentes, et qu'on voit bien avec et cette nouvelle génération qui non seulement lutte pour se réapproprier une histoire, pas une histoire idéale, mais une histoire, leur place. Je pense à Bulebezwe, par exemple, Siwani, par exemple, qui, elle, travaille sur le corps, la place des femmes dans la société, le corps qui fait tout un travail avec à partir de savon, un savon domestique abrasif. Enfin, voilà, c'est pour moi ce moment-là qui fait passer d'une génération à l'autre.
Anaël Pigeard.
Je voulais revenir sur la question du titre de l'exposition, Être là. Bon, on comprend ce que ça veut dire.
Enfin, pas vraiment, parce que là, on entend bien ici qu'il s'agit d'une exposition dont les choix sont faits pour parler de la situation politique, économique et sociale, ce que le titre ne dit pas. On a l'impression que c'est une exposition sur la scène sud-africaine contemporaine. C'est pas ça. C'est une exposition sur la scène sud-africaine contemporaine orientée sur des questions liées à la politique, à l'économie, à la société.
Mais c'est essentiellement ça,
Non, et l'art pour l'art n'existe plus.
Alors, c'est une question qui peut se poser, effectivement, parce que des artistes qui s'intéressent à des sujets non politiques, il y en a, bien sûr.
Mais pas dans cette expo.
On peut en citer.
Pas dans cette expo, c'est bien ce que je dis. Donc c'est pas une expo sur la scène contemporaine sud-africaine.
Absolument. C'est-à-dire, c'est une exposition qui a pris ce parti-là.
Bien sûr.
Je pense avec l'idée que c'est le sujet, enfin, que cette question de la politique,
et
du corps noir féminin, essentiellement, à travers Bulebezwe Siwani, mais aussi Zanele Mioli, par exemple.
Oui, absolument.
Ou encore Nicolas Lobo. Donc ces deux sujets ces deux directions sont extrêmement importantes. Mais effectivement, on peut citer des artistes comme Zander Blom, par exemple. Enfin, il y en a des tas, et il suffit de regarder les deux galeries dont on parlait tout à l'heure, Stevenson et Marianne Goodman, mais aussi par exemple Afronova, enfin d'autres galeries sud-africaines, et elles sont nombreuses, pour voir qu'effectivement il y a des artistes qui s'intéressent aux questions de la modernité, par exemple. Qui font de la peinture, Mais donc, pour revenir à cette idée de être là, je crois qu'en fait, c'est un titre assez intéressant parce qu'effectivement, il est extrêmement multidimensionnel. Et en fait, à mes yeux, il renvoie à la question de la manière dont on habite un territoire, en fait. Je suis là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment on s'enracine dans ce territoire de manière, et je pense idéalement, de manière à la fois locale et globale. Et au fond, je trouve que cette exposition montre ça assez remarquablement, c'est-à-dire qu'on y voit à la fois un contexte local exprimé de manière très précise, avec un tas d'exemples, mais on peut aussi voir cet ensemble de sujets de manière beaucoup plus universelle. Si on prend par exemple la vidéo de William Kentridge, qui s'appelle Notes Towards a Model Opera, qui fait référence aux opéras modèles chinois de l'époque de Mao. De la révolution culturelle. C'est en fait une suite de réflexions un peu oniriques sur les révolutions. Qui est beaucoup plus large que et beaucoup plus abstraite, en fait, quand on regarde la vidéo en entier, que d'autres œuvres qui sont vraiment directement liées. Et en même temps, le travail de William Kentridge est toujours extrêmement lié au contexte précisément de l'Afrique du Sud, et même plus à sa vie personnelle.
Enfin, il y a toujours quelque chose de bonheur concernant Kentridge.
Importante, c'est que je trouve justement que les deux vidéos de Kentridge qui sont présentées là dans l'exposition et dans l'accrochage de la collection sont très bien présentées parce que totalement dépourvues de tout l'attirail mobilier qu'on a vu dans d'autres expositions de William Kentridge. Et là, on peut se concentrer sur les images et sur la poésie de l'animation, ce qui est très bien. Mais je reviens à mon titre, être là, peut-être à ce titre, être là plutôt. Il y a une chose assez jolie que j'ai relevée dans un texte du catalogue d'un commissaire d'exposition, Bonaventure So Beijing Ndikikung, qui est aussi un des commissaires de la Documenta, et qui raconte que dans une langue zoulou, pour dire bonjour, si on traduit les mots littéralement, on s'adresse à la personne en disant l'équivalent de « je te vois », et la personne répond en disant « je suis là ». Je trouve ça assez joli.
Ouais, et puis être là, il y a aussi ce sous-texte. C'est un des échecs du post-apartheid, c'est l'impossible en fait réconciliation entre les opposants de l'exil et ceux qui sont restés en Afrique du Sud pour combattre. Ça, c'est vraiment un des gros problèmes qui est toujours pas résolu près de 25 ans après la fin de ce régime, qui est abordé, mais fait partie de cette question-là. Être là, ou t'étais là, ou t'étais pas là. Enfin, il y a quand même cette question-là qu'il faut entendre aussi. Yasmine aussi.
Oui, non, c'est une question qui est abordée notamment par Kemang Wa.
Il faut retrouver la bonne fiche.
Ouais,
vous allez retrouver avec votre belle écriture.
Et qui fait tout un travail justement sur un journaliste écrivain sud-africain qui a été complètement manipulé par la CIA, qui l'a poussé à partir. Lui, il voulait partir, mais il est donc allé à Harvard. Et puis, oui, dans une grande université américaine, je crois que c'était à Harvard, et il s'est retrouvé à Patride. Après, il ne pouvait plus rentrer chez lui et il est mort de manière totalement... Enfin, il a été dit qu'il s'était suicidé en se jetant d'un immeuble de la CIA.
Il s'est suicidé d'une balle dans la nuque.
Voilà. Non, ça, c'était le général Oufkir.
entre autres.
5 balles dans le dos. et qui est tombé d'un immeuble dont l'appartement appartenait à son complice à celui qu'il avait fait sortir. Et il aborde ça à travers le thème de l'exil avec une installation avec des valises dans lesquelles il a mis des morceaux de pelouse et qui sont veillés par des chiens. Les chiens sont omniprésents dans cette exposition. Il y a ces chiens en porcelaine qui, lui, m'a expliqué que c'était vraiment emblématique de la classe moyenne et que quand elle déménageait dans de nouveaux appartements, ils n'avaient pas le droit d'emmener leurs chiens avec eux, donc ils prenaient des chiens en porcelaine. On les voit là. On les voit dans le travail de Jane Alexander, aussi un bataillon de chiens qui représente les forces de l'apartheid. Des chiens qu'on voit aussi dans le film d'animation de David Kolohane, mais là ça se passe dans les townships de Johannesburg. Voilà, effectivement, lui c'était ce journaliste-là dont il avait découpé, qui a été enterré aux États-Unis à New York et dont il a découpé un bout de la tombe. Enfin, de la pelouse qu'il y avait sur là. Mais oui, c'est une question qui se pose et que pose aussi une jeune fille. Moi, ça a été une très belle découverte. Une jeune fille, voilà, vous me perturbez, je n'arrive plus à retrouver.
Bon, ça, je vous perturbe.
Oui, voilà.
L'émission fait seulement une heure, vous savez.
Tenjiwe Nkinkosi, qui à la mort de Mandela, s'est demandé mais qui était le héros finalement. C'était un héros tellement immense, y avait-il de la place pour d'autres héros? Et qui avait cherché comme ça des anonymes qui s'étaient battus contre l'apartheid. Et elle fait une série de portraits.
La liste est longue.
Portraits.
De ces héros.
Oui, mais des plus anciens aux plus récents. Et c'est des portraits cadrés très serrés sur fond neutre. C'est un très très bel ensemble.
Annaëlle Pija.
Kentridge, encore lui, décrit ça d'une manière extrêmement juste, je trouve, en parlant de l'absurde pris dans une logique implacable.
Être là, Afrique du Sud, une scène contemporaine, jusqu'au 28 août à la Fondation Louis Vuitton, et puis un catalogue de cette exposition qui est coédité par la Fondation et les éditions Dilecta.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et à suivre dans La Dispute, Art Afrique, le nouvel atelier de la Fondation Louis Vuitton, suite, 2 autres épisodes, mais tout d'abord, premier épisode, ou un sequel, ou un préquel, ou un spin-off, le petit salon de Xavier Martinet. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Alors, l'Afrique, c'est chic?
Très chic.
J'ai trouvé ça hier soir, j'étais tellement content.
Alors, vous êtes fier, là,
c'est
vraiment.
Bon, non? D'accord. Là, déjà, elle est consternée. Non.
L'Afrique, c'est chic, surtout dans les grands salons de vente, puisque outre la Fondation Louis Vuitton, il ne vous a pas échappé que depuis quelques semaines, Paris est le centre d'une intense activité autour de la scène artistique contemporaine en Afrique. Ce sont 4 expositions importantes qui lui sont ou qui lui ont été dédiées au printemps. Donc l'Afrique à l'honneur, qui est passée à Art Paris Art Fair au Grand Palais, l'exposition de la Fondation Louis Vuitton, vous en parlez, le jour qui vient dans l'événement Africa Now aux Galeries Lafayette, et puis cette exposition grande exposition Afrique Capitale à la Halle de la Villette et à Lille. Donc 5 expositions, en fait 6 même si on compte cette exposition foire en même temps, alias As Known As Africa, AKAA, au Carreau du Temple à la fin de l'année dernière. Cette série d'événements s'inscrit dans un contexte mondial favorable ces 10 dernières années pour l'exposition des artistes africains sur le continent. Martine Robert dans Les Échos le souligne bien, et puis dans le monde anglo-saxon également. Dans ce contexte, avec des dizaines d'artistes exposés, Paris donnera un bon aperçu de cette production, celle des grands noms, donc le sud-africain William Kentridge, bien sûr, vous en parliez, le Ghanéen El Anatsui, qui a été Lion d'Or en 2015, qui est exposé à Lille en ce moment, ou Chéri Samba, exposé par la galerie André Magnin à Paris Art Fair, déjà à l'exposition Beauté Congo, d'ailleurs Chéri Samba de la Fondation Cartier l'année dernière, comme le notent Les Échos. Et puis il y a aussi les nouveaux venus, ou au moins récemment venus, l'Égyptien Youssef Limoud, primé à Dakar l'année dernière, le Camerounais Pascal Martin Taillou, dont les cabanes inversées sont sans doute un des clous, disons, de la Villette, ou Joël Andriano Meairisoa, qui expose ses fanions noirs aux Galeries Lafayette. Et cependant, la France n'est pas tout à fait en pointe. D'une part, il s'agit d'une session de rattrapage, comme le note aussi bien le journal du dimanche que Le Monde. Le continent oublié se rappelle au bon souvenir du marché de l'art, titre-t-il. Paris a été en effet le théâtre d'expositions remarquées mais épisodiques. C'était Les Magiciens de la Terre en 1989, Africa Remix en 2005 au Centre Pompidou avant le renouveau actuel, alors que, disent la presse, en Allemagne, en Grande-Bretagne surtout, le suivi a été plus continu, disons. Au JDD d'ailleurs, Anne-Marie Yemsi, qui est commissaire de 2 expositions, affirme que l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont eu cette avance. Il y a eu par exemple la foire 1.54 à Londres, notamment depuis quelques années, qui s'est exportée à New York et qui est citée comme exemple par une partie de la presse. D'autre part, la France aurait longtemps négligé, voire méprisé cette production. Dans un long article du Monde intitulé « À la recherche de l'art africain », Philippe Dagen écrit « On dirait que l'institution considère qu'une exposition toutes les 2 décennies suffit. Quant au musée d'art moderne de la ville de Paris, il semble se désintéresser totalement de la question. » Enfin, reste ce questionnement embarrassant, comme l'appelle Philippe Dagen. Questionnement, mais pas seulement, c'est celui d'une stratégie de défense et illustration de cette production qui oblige à faire des expositions labellisées, en témoigne pour lui les intitulés des expositions actuelles, y compris le nom de la foire 1.54 de Londres, Contemporary African Art, au risque, dit-il, de faire croire à un essentialisme. Ce risque est-il réel? On verra. En tout cas, la France garde une approche très exotique de l'Afrique, très essentialiste, comparée à la Grande-Bretagne qui a une vision beaucoup plus contemporaine, disait un galeriste qui a voulu rester anonyme, interviewé par Emmanuel Lequeux dans Le Monde. Paris Art Fair semble avoir tranché en engageant une centaine d'artistes africains dans le salon Paris Art Fair, non sous une hypothétique bannière Afrique, mais bien en leur nom, contre l'exotisme et contre les clichés, disait Guillaume Pience, le commissaire général. Alors bien sûr, pour vendre, il faut donner une visibilité, pour exposer aussi, mais ce label peut nuire à la visibilité de l'artiste lui-même, c'est donc un exercice délicat. Faut-il enfermer les artistes africains dans un label? C'est ridicule, mais il faut être pragmatique et accepter un peu de discrimination positive, répond Anne-Marie MC. Alors pour ce que vous avez vu, en tout cas, cette exposition grandissante d'artistes africains est-elle un bon moyen de désexotiser l'Afrique?
Alors voilà, comme un écho aussi, on a déjà eu cette discussion dans un petit salon consacré au Focus Afrique du Festival d'Avignon, qui a suscité et qui suscite encore beaucoup de commentaires et de polémiques. Anaëlle Pija, comment on répond à ces questions?
Vous l'avez dit à demi-mot, je crois que il y a un travail à faire. Effectivement, la France n'est pas en avance par rapport à d'autres pays, mais d'autres pays travaillent aussi. Cette histoire de label, ça va pas du tout. En même temps, il faut bien commencer quelque part, comme le dit volontiers Jean-Hubert Martin, par exemple, mais comme le dit tout le monde, en fait. Enfin, tous les acteurs qui s'intéressent à cette question. Ce mot de label est particulièrement terrible. Ça renvoie à l'idée d'étiquette, à l'idée de produit. Je crois que l'idée générale, c'est d'essayer de normaliser et puis d'ouvrir et de faire que ces artistes et ces œuvres soient montrés, non plus avec une étiquette ou un label, mais pour ce qu'ils sont eux-mêmes. Et donc, il faut commencer à travailler. Je pense qu'il y a un travail qui est mené dans des galeries ici, mais il y a aussi, on le disait un peu la dernière fois, un énorme travail qui est fait sur le continent africain. Vous citiez la Biennale de Dakar, mais il y a énormément d'initiatives qui se sont créées dans les 10 dernières années. Je ne vais pas en faire la liste, mais on peut penser aux rencontres de Picha, par exemple, à Lumumbashi, à l'initiative de l'artiste Sami Baloji. On peut penser à Doualart au Cameroun. Il y a Lagos, évidemment. Lagos, évidemment, tout ce que fait Bissi Silva avec son centre d'art contemporain, bon, etc. Moi, Tasnas Rocker, Aïda Moulouné à Addis Abeba. Ce que je crois, c'est que ce travail passe par les galeries, par des galeries non spécialisées. On peut en citer aussi, là encore, beaucoup, à Paris et ailleurs. Je trouvais intéressant aussi, comme objet de réflexion, les grandes expositions internationales, par exemple la Documenta et l'Afrique du Sud. Bonaventure Sobejang Yikung, dont je parlais tout à l'heure, est l'un des commissaires de la Documenta, qui vient d'ouvrir ses portes à Athènes et qui va ouvrir bientôt à Kassel en Allemagne. Le résultat, c'est que il y a des artistes africains dans la Documenta et qui sont pas dans un compound, enfin dans un enclos d'artistes africains qui font partie des expositions. Le cas de Venise, de la Biennale de Venise, qui est quand même un des événements de référence dans cet univers de l'art contemporain, dont on parlera bientôt, est aussi très intéressant. Si on prend les dernières éditions, en 2013, l'Angola gagne à la surprise générale le Lion d'Or. C'est une décision extrêmement contestée, l'Angola étant une dictature. C'est peu de le dire, mais néanmoins c'est un geste assez fort, et il y a cette année-là un petit dépliant qui accompagne les visiteurs pour montrer dans la ville les différents pavillons montrant les différents pays d'Afrique, et il y a le premier pavillon sud-africain. En 2015, c'est Okwuenwesor qui est le commissaire de l'exposition internationale de la Biennale, qui fait que là aussi, comme dans la Documenta cette année, il y a des artistes africains un peu partout et un peu plus représentés que les années précédentes. Et cette année, j'ai reçu à l'instant, en ouvrant mes mails avant de venir enregistrer l'émission, vu cette information, il y aura 2 jours de colloque qui s'appelle African Art in Venice Forum, qui seront 2 jours de réflexion avec des représentants de musées internationaux, la Tate et d'autres, qui réfléchiront à cette question, sachant que cette année, il n'y a que 7 des 54 pays d'Afrique qui ont des représentations nationales dans les pavillons. Donc, pour répondre à la question, je crois qu'il faut ouvrir et que le travail est en cours. Et après le feu d'artifice parisien, en tout cas, la question est de savoir comment on continue.
Dans le colloque, il y aura des patronnes ou des patrons d'institutions françaises. Vous avez le temps de regarder.
J'ai pas eu le temps de regarder, j'ai vraiment vu ça à la seconde.
Là, c'est prêt. Annaëlle, Yasmine aussi.
Oui, mais écoutez, moi, si je reviens sur cette histoire de Lamel, le problème du Lamel, il va continuer en France si on continue à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire, comme le disait, je crois que c'est Philippe Dagen, une exposition tous les 10 ans, tous les 20 ans. Enfin, là, c'est tous les 15, hein, j'avais calculé, c'est tous les 15 ans. Si on fait une exposition tous les 15 ans, on redécouvrira tous les 15 ans un art africain. On n'ira pas au-delà de ça. Maintenant, pourquoi est-ce que en France, on a pris du retard par rapport à tout ça? Aux États-Unis, par exemple, vous citiez l'Angleterre, mais il y a aussi aux États-Unis où ils sont très, très en avance. Parce qu'aux États-Unis, ça fait des années qu'on travaille sur les post-colonial studies. Et que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. Ici, qu'on n'a pas abordé. Pourquoi est-ce qu'un Mabankou va enseigner dans des universités américaines, je sais plus s'il est à Stanford ou je sais pas, dans les plus grandes universités américaines. Pourquoi est-ce que les auteurs des Caraïbes vont enseigner dans les plus grandes universités américaines? Parce qu'on ne veut pas d'eux ici. Parce que quand vous êtes au collège, moi j'ai la fille d'une amie qui est au collège, qu'est-ce qu'on lui montre comme littérature africaine? Kamara Lai, l'enfant noir, c'est ce que je lisais en 84, à 12 ans. Donc on continuera à avoir des expos, on continuera à découvrir l'art africain tous les 2 ans. Alors il faut rendre hommage à Alain Seban quand il était à Beaubourg. C'est vrai qu'il avait lancé toute une réflexion sur les pays émergents. Aujourd'hui, elle n'existe plus, cette réflexion-là. On a l'impression que quand ils achètent un artiste africain, non celui qui était à la Villette, Gbré par exemple, c'est un artiste ivoirien, né en France je crois, qu'on peut encore voir à la Villette, c'est presque en catimini. Donc effectivement, on va continuer à avoir ça. Et heureusement qu'il y a des foires comme Art Paris, Art Fair, qui cette année, il faut le dire, était vraiment exceptionnel pour nous montrer la vitalité de cette ère-là. Mais alors, quel retard on a?
Quel retard
on a ? Xavier Martinet.
Et de fait, je ne vais pas vous démentir, du moins c'est Anne-Marie MC, que je n'ai pas citée tout à l'heure, mais qui disait à Libération, à la Biennale de Dakar cette année, on a vu les représentants de la Tate ou du MoMA venir en nombre. Il n'y avait quasiment personne des institutions françaises. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, pour revenir à cette série d'expositions à Paris et dans le contexte mondial, je me demandais ce qu'on pouvait attendre justement de cet événement qui est effectivement un feu d'artifice en ce moment. Est-ce qu'il va faire long feu ou pas, puisqu'il va être suivi, si j'ai bien compris, de ventes chez Piazza, mais aussi à Sotheby's, il me semble, dans les prochains mois ou dans le prochain mois. En gros, on voit bien qu'il y a une forme de réponse dans le temps entre les galeries qui collectionnent, qui finissent par exposer ces grandes ventes qui vont séduire des grands investisseurs dans l'art international, etc. Il y a quand même un mouvement favorable, on pourrait dire, en ce moment.
Mais non seulement ça, pardon, non seulement un mouvement favorable au niveau des collectionneurs, mais allez voir, allez, quand on sort des vernissages de presse, hein, où on est entre gens d'un même monde, et qu'on va effectivement voir ces expositions à d'autres moments, que ça soit à la Villette, que ça soit l'été dernier à la Fondation, l'été dernier, ou il y a deux ans, à la Fondation Cartier, qui a fait un travail remarquable grâce à André Magnin, depuis des années, et que tout d'un coup, vous voyez une autre, vous voyez des gens que vous n'avez pas l'habitude de voir, et qui se réapproprient aussi leur histoire, je veux dire, c'est un service qu'on rend à ce pays aussi.
Oui, enfin, c'est problématique aussi.
Oui, bien sûr que c'est problématique.
Que le public ne soit pas davantage mixte.
Non, il est en dehors. Voilà, c'est ça. Oui. Parce que dans ces expositions-là, il est mixte pour la première fois. Tous les 20 ans, tous les 15 ans. 15 ans, Africa Remix. 15 ans après Les Magiciens de la Terre.
Anaëlle, pour finir.
Non, je crois que c'est vraiment, effectivement, un travail de fond qui est à mener et qui... toute cette programmation, enfin le relais de toute cette programmation d'exposition est à prendre par les institutions et les institutions publiques pour commencer.
On va singulièrement la liste des participants au colloque de Venise.
Oui, on va. Oui. Absolument.
Et on poursuit ce focus sur la proposition Art Afrique, le nouvel atelier à la Fondation Louis Vuitton à Paris jusqu'au 28 août avec Les Initiés, donc un choix d'œuvre de la collection d'art contemporain africain d'Agent Pigozzi présenté pour la première fois à Paris. Une quinzaine pour cette sélection d'œuvres de la collection Jean Pigozzi, homme d'affaires qui a confié en 89 à André Magnin, on en parlait, le soin de le conseiller dans ses acquisitions, celui-ci ayant ensuite arpenté essentiellement l'Afrique subsaharienne. 89, évidemment, la date n'est pas hasard, puisque Jean Pigozzi avait été enthousiasmé par l'exposition Les Magiciens de la Terre, il l'a raconté souvent, il est venu aux dernières heures de cette longue exposition. C'est un photographe, un jet-setter, dont le père a notamment fondé la firme Simca de voitures. Lui voulait une collection que d'autres n'avaient pas, et donc André Magnin s'y est attelé pendant 20 ans. Alors j'ai lu le chiffre, achetant en tout 15 000 œuvres. Il s'est ensuite consacré à une activité de marchand, André Magnin, de galeriste. Il a aussi monté, comme vous le disiez, l'exposition Beauté Congo à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, c'était il y a un an ou deux. Alors maintenant on entre dans l'exposition visible à la Fondation Louis Vuitton. On vous suit cette fois, Yasmine aussi, pour commencer.
Oui, mais écoutez, moi, la collection Pigozzi, on en a beaucoup entendu parler, on l'a vu à plusieurs reprises, il prête, on l'a vu donc à la Fondation Cartier, comme vous disiez, et là, c'est un accrochage, moi, j'ai eu l'impression de la découvrir ou de la redécouvrir. C'est un accrochage, je crois que c'est Suzanne Paget qui a fait l'accrochage, là encore.
Sur les mêmes commissaires que pour la première expo.
Oui, et c'est un formidable accrochage, parce qu'elle a privilégié des ensembles, bon, alors bien sûr, servi
Très peu d'artistes.
Très peu d'artistes.
Par rapport à l'ampleur de la collection.
Mais, des ensembles qui font quand même la part belle aux œuvres. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux œuvres qui se battent en duel, avec pour chacun une couleur différente. Et tous ces artistes communiquent entre eux. Je les ai rarement vus aussi bien communiquer entre eux, tous ces artistes. Et j'ai trouvé que c'était très intelligent de présenter cette exposition en même temps que celle consacrée à l'Afrique du Sud, parce que ça montre bien comment l'évolution des choses aussi. Hein. Parmi les 14 artistes retenus, il y en a qu'on a déjà vu de manière plus large, qu'on connaît maintenant, comme Seydou Keïta, comme Malik Sidibé, comme Chéri Samba, qu'on a beaucoup vu aussi à la Fondation Cartier. Et puis on en découvre d'autres que moi je ne connaissais pas du tout, comme par exemple John Goba, qui vient de Sierra Leone et qui fait des sculptures avec piquets d'épines de porc épic, et ça donne des constellations assez hallucinantes. Il y a Seni Awa Kamara, qui lui naît au Sénégal en 1945 et qui a été initié à la poterie par sa mère et qui fait des sculptures anglaises, des corps c'est des personnages féminins, enfin on sait pas très bien. Et puis il y a des dizaines de petites têtes de petits bébés qui s'agglutinent comme ça au corps. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant quand on les met en regard, c'est de voir comment ces artistes-là, bon, c'est essentiellement des artistes francophones, hein, mais de l'Afrique francophone, mais pas que, collectionnés par Pigozzi entre 1989 et 2009, hein, c'est vraiment très important de préciser les dates, sont encore, donc c'est encore post-indépendance, c'est encore, on se réapproprie son histoire, on se réapproprie ses traditions, et on les conjugue avec la modernité. Les artistes d'Afrique du Sud, ils viendraient presque aujourd'hui, c'est-à-dire avec une Boule Bezoué Siwani, qui elle-même, en fait, est guérisseuse et revient à cette spiritualité-là et renoue avec ses racines. Mais c'est une pratique totalement différente de celle de ces. Voilà, c'est une toute autre histoire et c'est une pratique qui est totalement différente. C'était vraiment avec les artistes collectionnés par Pigozzi. C'est quelque chose qui a à voir vraiment avec l'Afrique ancestrale, avec des traditions qu'on reprend et comment on les réinterprète.
L'Afrique occidentale française, c'est quand même beaucoup ça aussi.
Oui, hein, cette réappropriation-là, elle est vraiment, elle est vraiment très très forte. Et c'est tout aussi intéressant de voir cette évolution et de voir comment. Alors bien sûr, dans ces œuvres-là, on a. Moi, j'encourage. C'est l'ensemble des expositions. Il faut quand même peut-être prévenir les auditeurs que c'est un ensemble qui a beaucoup de souffle, qui est très ambitieux. Hein, tout cet ensemble autour de l'Afrique, que ça soit les initiés, que ça soit l'Afrique du Sud, que ce soit la collection. Il faut prendre son temps. Il faut vraiment prendre son temps. Bien sûr, on peut ne pas lire les cartels parce que les œuvres, il y a vraiment quelque chose d'immédiat dans ces œuvres-là. Elles ont quelque chose d'universel. Elles vous parlent beaucoup tout de suite. Mais on se rend compte aussi qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Quand vous voyez par exemple les coiffures photographiées par Ojekere, ce photographe nigérian qui est décédé, on passe à côté de beaucoup de choses parce qu'elles sont magnifiques, hein, les photos. Mais tout cet art du tressage de cheveux dit quelque chose. Les motifs qui sont retenus donnent l'identité de la personne qui porte cette coiffure. Et nous, on ne sait pas. C'est vraiment, il y a quelque chose de très frustrant par rapport à ça.
Amel Pijard.
Pour rebondir sur ce que vous disiez, Yasmine, effectivement, entre l'Afrique du Sud et la collection Pigozzi, ce sont deux époques et deux histoires. Oui. Pour forcer le trait, je dirais presque que si un œil non informé arrive dans la fondation et découvre ces objets simplement sans aucun texte, on peut considérer, rien ne permet de penser que ça vient de l'Afrique. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de l'Afrique, ça vient de 1000 endroits différents et c'est ça. L'exposition de la collection Pigozzi est absolument bien montrée, bien accrochée. Ce que je trouve que surtout, elle montre un regard et elle montre un côté obsessionnel. Mmh. Ce sont ces séries et ces ensembles d'œuvres. Mmh. C'est pour ça que moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait peu d'artistes.
Non, je le précise simplement.
Oui, tout à fait. Mais en fait,
dans une collection aussi immense, c'est un choix très précis,
très radical. Exactement. Et qui montre l'ampleur des choix qui ont été faits. Parce qu'au fond, c'est des artistes qu'on a vus, qu'on connaît. Frédéric Brulli-Wabré, il est dans tous les foires. Déjà. Là, c'est extraordinaire. Il y a plusieurs séries. Il y a par exemple le musée du visage africain qui comporte 162 dessins. Mmh. C'est incroyable. Il y a une dizaine de tableaux de Chéri Samba. Il y a aussi des très beaux, très beaux frottements, par exemple, entre les maquettes de Bodizac Kingelez et les tableaux de Moquet qui montrent les maquettes de ville de Bodizac Kingelez et les scènes de nuit avec des lumières violettes insensées de Moquet. Ça marche très bien. Alors, juste une chose encore sur le fonctionnement de cette collection. C'est un drôle d'attelage que ce fonctionnement à deux entre l'un qui se déplace, André Magnin, et l'autre qui reste, mais qui participe quand même au choix.
Qui a jamais mis les pieds en Afrique, si j'ai bien compris.
Qui a jamais mis et qui le répète à qui veut l'entendre comme une sorte de provocation. C'est même presque une sorte
de. Du mal à le croire, à force.
Oui, c'est même presque une sorte de contournement aussi, parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il a été partout dans le monde, sauf en Afrique. ils ont ensemble établi trois critères. Il faut que ce soit des artistes originaires d'Afrique subsaharienne qui y vivent et qui y travaillent. Ce sont des... On peut remarquer d'ailleurs qu'il y a assez peu d'artistes finalement de la collection qui viennent d'endroits où il y a des véritables scènes aujourd'hui, ce qui prouve bien que c'est une autre époque, et une époque d'avant Internet. Et d'ailleurs, la collaboration... Et la collaboration avec André Magnin s'arrête en 2009, de manière, à mon avis, assez significative. Parce qu'à ce moment-là, peut-être, c'est plus nécessaire. Parce que c'est dur aussi d'aller... Enfin, c'est dur. Ça nécessite une certaine logistique quand même, bien en sûr, 89, d'aller chercher Frédéric Brulli-Bois Après,
mais quelle chance aussi.
Mais quelle chance aussi dans sa maison. Qui était au magicien de la Terre.
C'est une vie formidable.
Ces trois critères pour suivre ce fil sont aujourd'hui largement discutés, parce que la collection montre ses œuvres extraordinaires et c'est ça qui est formidable. Mais il y a en particulier dans le catalogue un texte de Koyo Kuo qui est finalement assez complexe et assez qui fait une analyse assez ambivalente de cette situation, mais qui reconnaît l'extraordinaire qualité des œuvres choisies et qui soulève une question intéressante et d'ailleurs qui a été très discutée dans les nombreuses interviews que Jean Pigozzi a donné récemment. C'est ce qu'il va advenir de cette collection. Dans plusieurs interviews, Jean Pigozzi a dit qu'il avait le projet de construire un musée. Il a annoncé que ça serait dans un pays d'Europe. On ne sait pas où. Et la question est assez intéressante.
On est d'accord. Yasmine, vous avez des informations ?
Non. Je sais que...
Et un commentaire ?
Non, mais c'est vraiment pour moi le regard d'André Magnin qui est vraiment. Et puis alors
c'est le regard d'André Magnin, les moyens de Jean Pigozzi.
Le regard d'André Magnin et les moyens de Jean Pigozzi.
J'étais pas là, j'ai absolument rien pour le dire, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une alchimie étrange entre ces deux personnages.
Pour que ça dure 20 ans, bien sûr.
Il
n'y a pas de doute.
Et ça, je trouve ça assez intéressant dans l'histoire des collections, parce que finalement, on sait que Noedler, le marchand, a collectionné fric à New York pour faire la fric collection. Pas un phénomène inédit, mais je trouve que c'est une alchimie assez fascinante.
Ça marche rarement comme cela.
C'est un autre, une autre manière. On s'intéresse beaucoup aux collectionneurs et c'est vrai que ces deux-là sont un cas à part encore et ils fonctionnent très bien. Et alors vous disiez tout à l'heure qu'on voyait bien le regard d'un homme, mais aussi la qualité de ses choix, parce que il y a vraiment rien à retrancher dans ces œuvres-là. Et le seul alors qui ne rentre pas dans les trois critères finalement, c'est Barthélemy Togo qui est à cheval entre...
Parce qu'en fait, c'est
quand il était encore
là-bas,
même que Taillot qui fait une œuvre dans l'escalier.
C'est pour ça en fait qu'il était collectionné avant.
Exactement.
Et depuis, il est là. Et c'est tant mieux. Si on veut dire quelques mots quand même des œuvres de la collection, il faut que l'on en avance et qu'on rappelle
Robin
que
Rose.
Les initiés, un choix d'œuvres de la collection d'art contemporain africain de Jean Pigozzi est donc en ce moment et jusqu'au 28 août à la Fondation Louis Vuitton. Et là encore, un catalogue coédité par la Fondation et Dilecta.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième sujet extrêmement rapide de cette dispute art plastique ce soir, pour compléter ce focus, c'est Afrique. Une sélection d'œuvres dans la collection de la Fondation Louis Vuitton et par tirage au sort, c'est Anaëlle Pigeat qui commence. Il vous reste 6 minutes à partager à deux.
Bon, alors, on parlait à l'instant du côté obsessionnel de Jean Pigozzi. Quand on regarde une collection, c'est ça la question qu'on se pose. Là, c'est une collection d'entreprise, donc c'est très différent. En très peu de mots, il y a des œuvres magnifiques. Il y a un accrochage absolument formidable. Par exemple, la salle de photos où on voit deux murs de David Goldblatt qui se font face. Un mur de Zanele Muoli et un mur de Kuzana Ishiurai qui est aussi dans l'expo d'Afrique du Sud. La salle est absolument magnifique. On sent évidemment un peu moins, je ne sais pas comment se fait la sélection des œuvres de la collection de la Fondation Louis Vuitton, mais là c'est plus une succession d'œuvres et moins, on ne sent pas d'obsession comme on sent l'obsession qui anime l'ensemble des œuvres de la collection Pigozzi. Mais c'est pas qu'il n'y a pas d'âme, il y a des âmes dans les œuvres, et il y a ce très bel accrochage, mais dans les œuvres les unes par rapport aux autres,
sans
c'est autre chose.
Qui ont été collectées par
mais ça peut pas, c'est normal.
Je dirais pas qu'il n'y a pas d'âme.
Alors, vous diriez quoi, Yasmine?
Non, je dirais pas qu'il y a pas d'âme. Je dirais pas non plus que c'est certainement pas les grands noms du marché non plus qui sont collectionnés. Vous avez tout
ça,
un
ça va peut-être venir parce que si on organise des ventes après les expositions, moi c'est ça qui m'inquiète.
Là, si vous voyez, par exemple, dans cet ensemble de la collection, il y a des photos de Santou Mofokeng. Santou Mofokeng, c'est pas quelqu'un qui explose les prix en salle des ventes au même titre qu'Ingurski ou que je ne sais qui. Et c'est un travail, c'est un photographe sud-africain qui a fait un travail aussi bien en Afrique du Sud qu'ailleurs. On se souvient de la série qu'il a fait sur Auschwitz. Il a des photos qui sont devenues des icônes, comme celle de ce cheval blanc dans une forêt. Et il fait partie de la collection et ça pour moi ça donne une âme à la collection.
Non mais qui est des œuvres qui est une âme, c'est pas la question. Est-ce que la collection donne un sentiment d'un choix particulier?
Non, je peux d'un choix particulier. Oui, c'est les artistes d'aujourd'hui qui comptent aux yeux de ceux qui font la collection, donc essentiellement Suzanne Paget qui choisit les œuvres, quoi.
Oui, ce que j'allais dire, enfin, au contraire, ce que j'allais dire, c'est que finalement, dans cette sélection, il y a relativement peu de surprises. C'est des artistes qu'on a vus dans des expositions. Oui. Alors, pas toujours à Paris, mais c'est normal. C'est une collection qui ne fonctionne pas selon les mêmes ressorts qu'une collection personnelle.
Bien sûr.
En revanche, il y a des échos à la programmation des expositions. Il y a par exemple, là, je vois une série d'artistes qui sont dans l'exposition d'Afrique du Sud. Je pense qu'ils ont été achetés à cette occasion, parce que c'est des jeunes artistes. Et donc, probablement, avec le temps, il y aura une histoire qui se dessinera dans cette collection, qui reflétera les expositions qui ont eu lieu et qui seront donc en quelque sorte une image de la Fondation. Je pense que les choses sont à leur place. Et ça n'empêche pas aussi qu'il y ait de très belles œuvres. Vous allez dire que j'exagère, mais
je n'ai
pas de passion inavouable pour Kentridge, mais
une irritation assez sensible sur Kentridge.
Figurez-vous que jusqu'à...
Qui fait tout et son contraire, et qui amène beaucoup d'âme, et qui amène aussi parfois beaucoup de paillettes.
Je suis absolument d'accord avec vous. Mais je trouve que les deux vidéos qui sont présentées m'ont réconcilié en quelque sorte avec Kentridge, alors que j'étais un peu irritée aussi en voyant quelques expositions récentes. Là, c'est une sorte d'autoportrait.
Il n'y a que ça qui l'intéresse en même temps.
Il
est très intéressé par lui-même. Parce que vraiment, j'ai vu suffisamment de théâtre, de livres, d'expositions, d'opéra,
de l'avoir
vu parler de lui sur scène.
Alors, je vais aller voir les spectacles de Kentridge pour me continuer à me faire une idée, parce que je ne l'ai pas vu vraiment.
Sur l'autoportrait.
Non, sur l'autoportrait. En fait, je trouve que d'abord, l'animation, c'est vrai qu'on l'a vu 50 fois dans beaucoup de vidéo, mais la poésie de l'animation elle-même, enfin du dessin, est extrêmement subtile et réussie.
Il manque pas de talent.
Et puis il y a ce grand écran de cinéma. C'est un mélange un peu indescriptible de contexte local et on sent qu'il y a quelque chose de très personnel là-dedans et on comprend pas quoi. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est assez réussi. Et il y a ce grand écran écran de cinéma en plein air qui s'effondre à la fin de la vidéo, qui donne une touche mélancolique que j'ai trouvée très réussie.
Très bien, vous avez fort bien parlé. Yasmine aussi.
Je voudrais juste vous signaler une œuvre d'un artiste qui s'appelle Robin Rhodes, qu'on a pu voir chez Kamel Menour notamment. Et moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il est, il est à cheval entre la performance, le dessin, le street art, et que ces vidéos ont... Voilà, j'encourage nos auditeurs à aller découvrir.
Vous en dites quelques mots ?
Ces vidéos, ben moi je les... je sais pas.
Quelques mots, c'est Méliès. Enfin, il le dit lui-même d'ailleurs, mais il y a deux vidéos qui sont montrées, et il y en a un où il pédale couché sur le sol sur un petit vélo dessiné à la craie, et on raconte que c'est, enfin il raconte que c'est le petit vélo qu'il n'avait pas quand il était enfant.
D'accord.
Et c'est une sorte de mise à la verticale d'un dessin qui est le rêve et l'imaginaire. Enfin, c'est vrai que c'est très joli, cette vidéo.
C'est très très joli, ouais.
Bon, vous recommandez sans réserve ces trois expositions à la Fondation Louis Vuitton.
Oui. Oui. Sans réserve.
Sans réserve.
Vraiment
aucune.
Sans réserve. Mais nous les moi je les recommande au même titre que je recommande celle de la Villette. C'est un ensemble. Profitons. Puisque j'espère qu'on n'aura pas, pas 15 ans à attendre.
Absolument.
Profiter.
On y va, on y retourne et puis on continue.
Si le marché s'y intéresse, comme ça a l'air d'être, de commencer à être le cas, on n'attendra pas 15 ans.
Mais le marché s'y intéresse. Le marché français ne s'y intéresse pas.
Oui, mais ça va
mais
venir justement.
Il faut aussi que les musées s'y intéressent.
Voilà.
Bon. Donc on va inscrire d'office les patronnes et patrons d'institutions au colloque vénitien. Donc vous nous avez parlé. En tout cas, donc tout ce focus Afrique, c'est quoi le nom déjà global de l'exposition ?
Le nouvel atelier.
Afrique, le nouvel atelier, jusqu'au 28 août à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Et avant de conclure tout à fait cette émission, c'est le jeu de la dispute. Et ce soir, j'ai la joie d'avoir à mes côtés Virginie Leduo qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir et nous apporter enfin la réponse. Virginie.
Dans le film Marosa, les protagonistes vivent du commerce d'une drogue extrêmement addictive qui est aussi au cœur de l'intrigue de la série Breaking Bad. Quel est le nom de cette substance ?
Moi, je ne me demanderai pas si vous en avez consommé. C'est quoi la substance, Virginie ?
Alors, la substance, c'est la méthamphétamine.
Ah, voilà. Et on fait gagner ce soir des places de cinéma pour le film De toutes mes forces de Chad Chenoga, qui est sorti bien aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question, Virginie Audio ?
Par quelle étoile montante de la scène musicale électronique française la bande originale du film De toutes mes forces a-t-elle été composée ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, ainsi que sur lequel vous pouvez réécouter cette émission, mais vous pouvez aussi, Yasmine aussi, vous savez, vous abonner au podcast de la dispute.
Oui,
vous,
absolument.
Vous réactivez l'abonnement, hein, parce que si on ne l'écoute pas, si on ne s'en sert pas, il s'épuise, il s'arrête, il faut se réabonner au podcast. Vous êtes très 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 nombreux, donc il faut quand même vous en remercier de ces abonnements au podcast de la dispute. On vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique, en compagnie de votre camarade Hugo Cassavetti, qui viendra nous voir demain avec Olivier Lam.
C'est la personne la plus drôle de Télérama, Hugo.
C'est vrai ?
Oui.
Ça va être triste notre Télérama alors. À notre affiche, je plaisante et on en reparlera avec Hugo demain soir. Slow Dive, Pleasure de Fest et Sync de Ryuichi Sakamoto. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir. Moi, je trouve que Fabienne Pascoe est beaucoup plus drôle.
Fabienne est très drôle.
Ah oui, d'accord. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.